France Inter, le 18-20.
Bonsoir, un invité spécial ce soir dans le téléphone sonne Europe, Pierre Moscovici, commissaire chargé des affaires économiques et financières. Sans doute plus que jamais, 60 ans après le traité de Rome, l'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a quelques jours, lors du sommet de Versailles, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ont entériné une Europe à plusieurs vitesses pour sortir de l'ornière le projet européen, ou ce qu'il en reste, sortir de l'ornière. Mais pour aller où, faire quoi? En attendant, au-delà des mots, les citoyens tournent leur regard vers les populismes. D'ailleurs, peut-on leur donner vraiment tort tant l'Europe ne semble plus en mesure de rassurer, de protéger, de nous dessiner un avenir commun? Vous le dites vous-même, Pierre Moscovici, on va y revenir à 60 ans. La maladie est sérieuse pour l'Europe dont le pronostic vital est engagé. Question donc, intervenez jusqu'à 20h, posez vos questions à Pierre Moscovici. Un numéro, le 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Leneuf.
Marie-Christine, vous appelez de Normandie. Bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel et je vous félicite, comme beaucoup d'auditeurs, de la qualité de vos émissions.
Merci.
Je voulais demander à M. Moscovici comment lui expliquait justement ce rejet de l'Europe que l'on retrouve dans toutes les catégories de la population.
Merci Marie-Christine. Pierre Moscovici.
Bonjour d'abord.
Bonsoir.
Et puis merci d'organiser cette émission. Le service public la montre, la voit. Je pense que c'est important de parler d'Europe. Si justement on veut qu'à un moment donné elle retrouve de l'audience et de la crédibilité. Alors d'abord, peut-être quelques éléments sur les chiffres. Il y a une récente enquête qui est parue la semaine dernière qui montrait que les Français, pour parler d'eux, étaient divisés sur l'Europe. C'est vrai qu'il y a à peu près autant de Français maintenant qui pensent qu'elle est bonne pour la France, qu'elle est mauvaise, ou ni bonne ni mauvaise. Mais il y a une deuxième donnée, c'est qu'il y a 72% des Français qui sont opposés à un retrait de la France de l'euro. Donc on peut dire qu'il y a un élément fort qui est l'attachement à l'euro, perçu comme une stabilité, comme une force à plusieurs, comme une grande monnaie dans l'ordre mondial. Et puis, il y a des insatisfactions sur l'Europe. Comment est-ce que j'explique ça? Par le fait que l'Europe n'a pas donné assez de résultats sur trois terrains. D'abord, la protection. On a besoin de protection pour sa sécurité, sécurité intérieure, sécurité extérieure, c'est la défense, sécurité sociale, et aussi le sentiment que les accords commerciaux, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment forts pour ceux qui se sentent perdants dans la mondialisation. Le deuxième terrain, c'est la démocratie. Il faut plus de transparence. Il faut aussi avoir une capacité à parler directement aux citoyens. Et ça, ça vaut aussi pour la Commission. Moi, j'ai été ministre, j'ai été parlementaire européen. La Commission, c'est une institution formidable, mais elle doit effectivement pouvoir communiquer mieux, plus simplement. Enfin, la troisième chose, c'est l'économie. Il faut plus de résultats sur le front de la croissance et de l'emploi. Alors, vous me dites, ça fait beaucoup de « il faut ». Non.
Ça fait beaucoup de conditions.
Ça dessine ce que doit être la feuille de route de l'Europe pour effectivement sortir de cette maladie. Elle en a les moyens. Une Europe plus protectrice, une Europe plus démocratique, une Europe plus efficace sur le terrain économique.
En quoi l'Europe peut-elle être plus protectrice, plus efficace qu'un État?
Mais
on est dans les mots, on est dans effectivement pas l'incantation, mais concrètement.
Je vais prendre quelques exemples alors, si vous voulez. Protection, sécurité intérieure. La crise des réfugiés. C'est une crise qui touche l'Europe tout entière. On ne peut pas la résoudre État par État. On ne peut pas laisser seuls les Grecs ou les Italiens résoudre ça. On a besoin d'accords européens. On a besoin de protéger une frontière commune, qui est la frontière européenne. Imaginez qu'on démantèle, comme certains le disent, Schengen. On se retrouverait avec trois fois plus de frontières à défendre et à défendre les uns contre les autres. Non, le plus sûr, c'est d'assurer la sécurité de notre frontière externe. Deuxième terrain, la défense. Chacun sent bien qu'aujourd'hui, on a besoin, non pas de donner toutes les capacités de défense à l'Europe, mais d'avoir une défense européenne. Aujourd'hui, c'est la France, après surtout le départ de la Grande-Bretagne, qui porte sur ses épaules, presque seule, ou qui va porter seule, le fardeau de la défense européenne. Autant partager et mettre en place des capacités, un fonds européen de défense. Voilà deux exemples de protection. Troisième exemple, la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas les frontières. Les terroristes, le terroriste qui a attaqué l'hypermarché il y a deux ans, était quelqu'un qui avait une arme slovaque, achetée en Slovénie, qui était passée par la Belgique. Et donc, quand vous avez des menaces qui sont transfrontières, vous devez avoir une réponse qui est également une réponse partagée. Je pourrais poursuivre. Je dis pas que tout doit être européen, mais je dis que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, la menace terroriste, la question migratoire, la question économique, ont une réponse européenne. Et quand vous avez un problème européen, vous devez avoir une réponse européenne. Les réponses nationales, ça ne marche pas. François Mitterrand disait, à Strasbourg, pas loin d'ici, il y a 20 ans que le nationalisme, c'était la guerre. Et je pense qu'il avait raison. Le protectionnisme n'est pas la raison. La protection, oui.
Pierre Moscovici, quel résultat aujourd'hui peut-on apporter aux gens qui doutent de l'Europe? Parce que, effectivement, la question de Marie-Christine était très claire. Mais quels sont les résultats que l'on peut apporter concrètement? On dit, effectivement, il faut plus d'Europe pour l'emploi. 17 millions de chômeurs aujourd'hui en Europe, il y en a pas. Bon, il faut plus d'Europe pour protéger les frontières. Or, il y a un sentiment que on ne protège pas les frontières extérieures. Quel résultat concret il faudrait ?
D'abord, on parle protection des frontières. Si je regarde la crise des réfugiés, je dis pas qu'elle est terminée, mais l'afflux de réfugiés a considérablement baissé. Il a considérablement baissé parce que précisément, nous sommes en train de mettre en place un corps de garde-côtes. Un corps de garde-frontières, parce que nous sommes en train d'assurer la sécurité en Méditerranée, parce que nous avons passé, c'est compliqué, hein, un accord avec la Turquie qui permet d'éviter que l'afflux arrive directement chez nous. Je dis c'est compliqué parce que la Turquie n'est pas un partenaire évident pour l'Union européenne. Sur le champ économique, nous sommes sortis maintenant depuis plusieurs années de la récession. Nous sommes dans une reprise qui est tout à fait honorable. La croissance est à 1,8%. Le chômage recule partout en Europe. Mais disons-le, il y a aussi quand même des responsabilités nationales. Il y a des pays dans lesquels le chômage recule plus qu'ailleurs. La France n'est pas en tête. Et j'aimerais qu'on ait une croissance encore plus forte pour avoir un recul du chômage encore plus rapide. Et ça, ça passe aussi par des réformes, comme les réformes du marché du travail. Je ne dis pas telle ou telle réforme, mais il faut réformer nos économies, nos structures économiques. Enfin, il y a une chose qui est indispensable, et c'est ce que fait la Commission, c'est de doper l'investissement en Europe. Nous manquons d'investissement, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce qu'on appelle le plan Juncker, du nom du président de la Commission, un plan de 315 milliards d'euros d'investissement. Il y a déjà 170 milliards d'euros qui sont décidés sur ces 315. Il y en a plus de 10% qui sont en France, qui concernent...
Ils sont où, 10% en France? Alors, mais on les voit pas concrètement. On les Moi, je les ai rencontrés.
Je suis allé il y a quelque temps à Tours. Et j'ai vu une entreprise qui bénéficiait du plan Juncker. Je suis allé à Vendeuvre-les-Nancy, j'ai vu une petite boîte qui fabrique des systèmes acoustiques qui a pu faire financer une innovation parce que elle a bénéficié d'un prêt de 600 000 euros à des conditions extrêmement privilégiées, labellisées par le plan Juncker de la Banque Européenne d'Investissement, puis aussi des grands projets d'infrastructure. Il y a la rénovation des logements en Ile-de-France. Ça concerne 400 000 personnes. Et le chiffrage, c'est que ça va créer 35 000 emplois en France. J'aimerais aussi, et ça c'est un message que je passe, que les autorités nationales, les gouvernements, cessent de dire que quand ça va c'est grâce à eux, quand ça va pas c'est la faute de l'Europe.
Quand vous étiez ministre, vous le disiez pas un petit peu ça, non ?
Non.
Non. Parce que c'est vrai qu'on a souvent vu des politiques français, quel que soit leur parti, aller à Bruxelles et en revenir en disant la faute à Bruxelles.
Je pense que si je suis commissaire européen, c'est parce que dans ma vie, il y a eu une certaine constance qui a été de considérer qu'on pouvait pas opposer la France et l'Europe. Et je trouve ça stupide. Je trouve ça stupide aussi dans la campagne présidentielle parce que, vous savez, je suis commissaire à Bruxelles aujourd'hui, mais j'ai été ministre des Finances, j'ai été député européen, j'ai fait toutes les institutions européennes. Et je sais à quel point on attend la France, à quel point la France est écoutée, à quel point il n'y a pas d'Europe sans idée française, à quel point aussi il n'y a pas de France sans contribution européenne. Et donc, j'ai jamais opposé les deux. Et c'est probablement ce qui fait que je suis aujourd'hui là. Non, j'ai jamais joué à ça. Et je trouve que c'est un jeu français qui est un jeu stupide. Et j'ajoute un jeu dangereux. Parce que le jour où, comme Mme Le Pen le propose, la France serait amenée à sortir de l'Europe, qui va perdre ? La France. Qui perdrait le plus ? Les Français. Quel Français perdrait le plus ? Les Français les plus modestes.
Alors, on va revenir sur la campagne présidentielle tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons au standard avec Françoise qui nous attend. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voudrais juste demander à M. Moscovici s'il a compris pourquoi on avait voté non en 2005. Je voudrais savoir s'il a compris qu'on ne disait pas non à l'Europe, mais non à cette Europe-là, qui n'a pas l'air beaucoup changée, qui n'est ni sociale, ni écologique, qui est juste l'Europe du fric. C'est exprès que j'emploie ce mot trivial. Parce que, enfin, ça concerne évidemment ceux qui en ont déjà, parce que les travailleurs détachés, les retraités grecs, les 25% de chômeurs espagnols, ils sont pas dans l'Europe du fric, eux. Alors j'insiste bien sur ma question, est-ce que vous avez compris pourquoi on a voté non ?
Oui, alors, je vous assure que j'ai bien compris.
Pierre Moscovici vous répond. Françoise, j'ajoute, pour avoir un petit écart aussi sur la campagne présidentielle, il y a des candidats qui veulent effectivement une autre Europe. On parle de Jean-Luc Mélenchon, il souhaite une autre Europe, ses électeurs souhaitent une autre Europe. Pourquoi cette incapacité à vouloir mettre en place, à ne pas pouvoir mettre en place une autre Europe?
J'ai très bien compris pourquoi on a voté non en 2005. À l'époque, j'étais député européen, je siégeais ici. J'avais fait 42% dans la circonscription dont j'ai été ensuite député en 2007. Et cette circonscription, une circonscription très ouvrière, le pays de Montbéliard, Sochaux, pour situer les usines PSA, a voté à 65% pour le non. Ce qui ne l'a pas empêché de me réélire 2 ans après comme député dans une circonscription où Sarkozy avait fait 54%. Ce qui prouve que, en effet, il y a un message à passer sur l'Europe. Je pense que les référendums sur l'Europe, c'est toujours extrêmement dangereux. Que les campagnes sont dissymétriques, c'est beaucoup plus facile de critiquer. Vous dites, voilà l'Europe du fric, je vais passer 10 minutes à vous expliquer pourquoi l'Europe n'est pas que l'Europe du fric, pourquoi l'Europe est aussi sociale, pourquoi l'Europe est efficace économiquement. Mais je pense qu'il faut avoir un regard balancé. L'Europe, qu'est-ce qu'elle est? Elle est ce que nous en faisons. L'Europe, c'est notre propriété. C'est, en quelque sorte, notre contrat de copropriété. Et quand vous parlez d'une autre Europe, moi, je souhaite qu'on ait une meilleure Europe. Je parle jamais d'une autre Europe. Parce qu'on doit faire avec cette Europe-là. On fait pas d'Europe sans les Européens. Chacun pourrait rêver, tiens, voilà, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait que des Mélenchons. Moi, j'en rêve pas. J'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon comme homme, mais j'ai pas envie que ce soit le cas partout. Si, dans tous les pays d'Europe, on avait une majorité mélenchoniste, on ferait une Europe à la Mélenchon. Il se trouve qu'il y a des pays qui sont à l'Est, des pays qui sont à l'Ouest, des pays qui sont au Nord, des pays qui sont au Sud, des pays qui ont des gouvernements conservateurs, des pays qui ont des gouvernements socialistes, et même un pays, la Grèce, qui a un gouvernement qui venait de l'extrême gauche. Et donc, il faut fabriquer des compromis progressistes. Et donc, moi, la formule que j'utilise, c'est une meilleure Europe, en effet, une meilleure Europe économique, une meilleure Europe sociale, et sur la directive sur les travailleurs détachés, la Commission est extrêmement claire. Il faut la modifier pour aller vers un système qui soit à travail égal, salaire égal, et pour faire en sorte qu'on ait les conditions sociales, non pas du pays d'origine, mais du pays de destination. C'est absolument vital. Là-dessus, il faut être très clair. Et je le suis. Et donc, une meilleure Europe, oui, mais une autre Europe, ça, ceux qui disent ça ne racontent pas la vérité aux Français. Soit on en sort, c'est la thèse de Mme Le Pen, et on perd tout. Je pense qu'on perd de notre rayonnement. Je pense qu'on appauvrit les Français qui seront touchés par l'inflation et qui devront rembourser une dette énorme avec des taux d'intérêt énormes. Soit on essaye d'être plus fort dans l'Europe. Et moi, ce que je reproche aux hommes politiques français, c'est souvent, encore une fois, d'avoir une attitude qui consiste à ne pas proposer des choses.
Alors, ne pas être proposer positif. Des choses. Pierre Moscovici, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, Benoît Hamon ne propose pas des choses.
Absolument. Hein,
son projet de traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro prévoit notamment une nouvelle assemblée parlementaire pour gérer la zone euro. Et vous avez publié un papier dans la presse ce matin. Absolument assassin contre
non,
Benoît Hamon.
C'est un papier.
Un papier très dur quand même. Parce
non,
que...
Benoît Hamon cherche, et c'est son mérite d'abord. Il y a beaucoup de candidats qui sont anti-européens, il ne l'est pas. Et il y a beaucoup de candidats qui ignorent la question démocratique en Europe, il ne l'ignore pas. Il a un grand mérite, c'est qu'il pose la question de la démocratie européenne. Et c'est qu'il veut aussi aller vers une meilleure Europe. Après, moi avec ma petite expérience, je lui réponds que s'il cherche une assemblée parlementaire de la zone euro, elle est là.
Juste à côté, elle est juste à côté. Européen
c'est l'hémicycle du Parlement européen. C'est pas la peine d'aller inventer quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas et qui détruirait l'édifice institutionnel qui est bâti sur la coexistence entre des institutions qui représentent les États, c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres ou c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement, et des institutions parlementaires. Le Parlement européen, c'est pas de la gnognotte, ça sert à quelque chose. Et si on veut créer un Parlement de la zone euro, on a quelque chose de très simple à faire. On demande aux parlementaires européens des 19 pays de la zone euro de se regrouper et de peser sur quoi ? Sur la Commission européenne dont ils ne parlent pas, qui représente l'intérêt général européen. C'est moi qui suis porteur de ça, puisque c'est moi qui négocie par exemple avec la Grèce. C'est moi qui représente la zone euro dans les rencontres du G20, les 20 pays industrialisés. J'irai à Baden-Baden à la fin de la semaine. Et donc je pense que, c'est ce que je lui ai répondu.
Vous lui dites tel que, il faut partir de l'Europe comme elle est,
absolument,
pas comme on la rêve.
Je pense qu'il faut.
On a quand même il a quand même le droit de rêver un peu.
Mais il a le droit de rêver, mais quand on est dans une élection présidentielle, il faut convaincre. Il faut rêver et convaincre. Et donc, j'engage ce débat avec Benoît Hamon. Je lui dis, essayons plutôt d'améliorer ce qui existe. Et moi, j'ai des propositions très fortes à faire en la matière. Qu'on ait un ministre des Finances de la zone euro, qu'on ait un budget de la zone euro pour investir plus, qu'on ait un Parlement de la zone euro qui soit issue du Parlement européen, qu'on renforce le rôle des parlements nationaux. Et donc ça s'appelle un débat, c'est pas du tout un combat, c'est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie. On a été ensemble député européen, il a été mon ministre délégué quand j'étais ministre des Finances. Je suis membre du Parti Socialiste comme lui, et donc je lui propose ce débat. Et je crois qu'il va venir à Bruxelles.
Vous allez le rencontrer,
je vais le rencontrer, et je serai très heureux de ça, parce que je pense que ce qui est important, c'est le mot compromis. Il a le mérite de faire une proposition. Pour moi, cette proposition, elle doit être rééquilibrée. C'est ce que je lui dirais.
On retourne au standard avec Christophe qui nous appelle de l'Isère. Bonsoir Christophe, on vous écoute.
Oui, bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions. Je vous écoute le plus souvent possible. Alors moi, je suis un Européen convaincu et je suis un enfant de l'Europe puisque je suis né d'un père français et d'une mère allemande. Là où je suis pas d'accord avec Pierre Moscovici, c'est que je trouve plus que l'Europe soit faite avec les Européens, mais que c'est les politiques entre eux, avec les grands groupes, et que du coup on ne défend plus l'intérêt général, comme c'est le cas d'ailleurs pour la politique en France ou dans les autres pays. Et je pense que c'est mon analyse à moi, mais je pense que c'est en partie ce qui explique la montée des populismes. Par exemple, si on parle des perturbateurs endocriniens ou des accords de libre-échange avec le Canada, on a l'impression que finalement l'Europe répond aux intérêts des grands lobbies et ne répond pas du tout dans l'intérêt général des Européens. Voilà.
Voilà. Merci Christophe. Pierre Moscovici vous répond.
Je suis moi aussi un Européen de naissance. Mon père était né en Roumanie et ma mère était d'origine polonaise. Donc non seulement je suis pour l'Europe, mais je suis même pour la grande Europe. Et c'est formidable d'avoir une Europe à 28, mais bientôt 27.
Sur cette perception,
après,
effectivement...
Après, je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit sur la nécessité d'incarner l'intérêt général. Je suis absolument pas en désaccord sur le fait de dire que les institutions européennes, les politiques européennes doivent pas être dans je ne sais quelle cathédrale, à l'écart du monde. Je pense au contraire qu'il faut faire beaucoup d'émissions comme ça, il faut communiquer de manière extrêmement précise sur les choses. Après, il faut effectivement être capable d'avoir un vrai débat sur les projets. Je vais prendre un exemple, qui est un des deux exemples que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'exemple du CETA, c'est-à-dire l'accord de commerce avec le Canada. Aucun accord de commerce n'est parfait. Tout accord de commerce est un compromis. Mais moi, je défends cet accord. Pourquoi ? Qui a été voté par le Parlement européen majoritairement. D'abord parce qu'il s'agit d'un pays qui s'appelle le Canada. C'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est le plus grand ami qui puisse exister de la France, avec des millions de francophones en Amérique du Nord, ça s'appelle le Québec. Un pays qui partage nos valeurs, un pays qui n'est pas, contrairement à son voisin américain, partisan de la peine de mort, un pays qui connaît les droits de l'homme, un pays qui accepte la diversité, un pays formidable. Et un pays avec lequel nous avons déjà un excédent commercial, et nous pouvons avoir un excédent commercial plus fort. Et il se trouve que cet accord est un bon accord, dans la mesure où, de manière très précise, il a été bien négocié, parce qu'il ne touche pas à l'agriculture, il ne touche pas aux normes environnementales, il ne touche pas aux normes sanitaires. C'est typiquement un accord. Il ne touche surtout pas à la langue, à la diversité culturelle, puisqu'on y parle le français aussi au Canada. Donc je pense que c'est vers ce genre d'accord qu'il faut...
Les opposants à cet accord disent que ça peut être aussi un cheval de Troie pour les États-Unis pour rentrer en Europe.
Alors j'allais y venir. Non, c'est un accord avec le Canada. Et si on m'avait demandé mon avis sur le TTIP, c'est-à-dire sur l'équivalent qui était négocié avec les États-Unis, j'aurais dit... Ah, on n'est pas du tout dans la même situation. Parce que, avec l'administration Obama, on avait avancé sur la négociation, on était très loin de la conclusion, et je vous aurais pas dit, on est près d'un bon accord, parce qu'on n'y était pas. Avec l'administration Trump, ce projet va aller, pour un temps au moins, au freezer, puisqu'ils sont plutôt de nature protectionniste, et je ne plaiderai jamais pour un mauvais accord commercial. Je vous dis, un bon CETA, oui, un mauvais TTIP, un bon accord avec le Canada, oui, un mauvais accord avec les États-Unis, non.
Vous êtes rassuré qu'il n'y ait pas d'accord avec les États-Unis ?
Je
pense qu'il n'y en aura pas, visiblement.
C'est pas une question d'être rassuré. Je pense qu'on avait aussi à gagner à un accord avec les États-Unis dans l'idéal, parce que l'économie américaine est beaucoup plus fermée que l'économie européenne, parce que je pense que dans l'échange, nous avions, nous, plus d'opportunités. Par exemple, les marchés publics américains sont des marchés publics extrêmement fermés. C'est vraiment « buy American ». Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Mais, tel que c'était en monde, une des garanties On n'a pas de garantie sur l'agriculture, on n'a pas de garantie sur les normes sanitaires, on n'a pas de garantie sur les normes environnementales, on n'a pas de garantie sur l'agriculture. On avait fait des progrès, mais on était loin du compte. Avec une administration démocrate, avec une administration républicaine et son état d'esprit compressant sur le commerce extérieur, disons que cette négociation, elle n'est pas prête de reprendre. Donc, dans l'idéal, on pouvait rêver d'un bon accord avec les États-Unis, on n'était pas tout à fait là. On était même loin d'être là.
On retourne au standard. France Inter, le téléphone sonne Europe en direct du Parlement européen avec Pierre Moscovici, invité jusqu'à 20h. Patrice, vous êtes au 0145 24 7000. On vous écoute.
Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Si on a une Europe à deux vitesses qui se mettait en place, quelles en seraient les modalités et les conséquences économiques, politiques, sociales et environnementales? Si je vous pose cette question, c'est parce que, bien, écoutez, j'ai 61 ans. Je suis très attaché à l'Union européenne et je trouve d'une démagogie mais parfaitement débile de vouloir sortir de cette Union. Toutes les extrêmes droites, y compris le FN bien sûr, vont à l'encontre de l'intérêt des nations qui ont tout à gagner à être soudées face aux menaces internationales. Alors ce que je regrette moi c'est qu'on a une utopie qui est devenue réalité mais elle a stagné. Je fais partie de ces gens qui rêvent d'une Europe fédérale érigée en véritable nation avec une langue commune qui pourrait être par exemple l'espéranto avec des droits sociaux communs. Autrefois, on avait des patois régionaux, et puis un jour, on a créé le français. Bien, pourquoi pas faire la même chose avec l'Europe ? Voilà.
Merci, Patrice. Pierre Moscovici.
J'aime bien la formule une utopie qui a stagné. Et donc, on doit retrouver quand même le chemin de l'utopie, le chemin du rêve que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut avoir des propositions ambitieuses.
En même temps, Patrice pose une question précise. L'Europe a plusieurs vitesses.
Oui, je ne suis pas tout à fait quand même pour l'espéranto, parce que je me souviens du traité constitutionnel qui a été rejeté par les Français. On en a parlé tout à l'heure en 2005. Il y avait une devise pour l'Europe que je continue à faire mienne. Unité dans la diversité. Et je suis pas pour une Europe qui ignore ses nations. Je suis pas pour une Europe qui ignore les États. Je suis pour une bonne combinaison entre l'intérêt général porté par des institutions européennes, la Commission, le Parlement européen et les États membres. Et je suis aussi pour le respect de la diversité linguistique. On parle français, on parle anglais. Moi, je veille à ce qu'on parle français aussi quand même. J'étais dans l'hémicycle à 5 minutes. Il y a quelques minutes, je parlais français. Parce que c'est important de garder la place du français et pas de donner tout à l'anglais. Alors après, sur la question spécifique qui était posée, qui était celle de l'Europe à deux vitesses. Je ne crois pas à l'Europe à deux vitesses. L'Europe à deux vitesses, ça voudrait dire qu'il y ait une sorte de division 1, une sorte de division 2. Au nom de quoi ?
On y est déjà, non ?
Non, parce que quand vous êtes en foot, voilà, les trois derniers descendent, les trois premiers montent, il y a des mécanismes automatiques. Là, au nom de quoi vous allez dire, toi t'es en première division, toi t'es en deuxième ? On n'a pas les mêmes critères objectifs, personne n'acceptera ça. En revanche, l'idée que on ne soit pas obligé d'avancer tous au même rythme sur tous les sujets, ce qu'on appellerait plutôt une Europe à géométrie variable.
Oui, alors Pierre Moscovici, ça fait 30 ans qu'on parle de ça. De géométrie variable.
Stéphane Leneuf.
C'était déjà la théorie de Schoeble dans les années 90.
Mais ça
existe. Et on y est, non ?
Mais ça existe. Je vais vous prendre deux exemples très criants. Premier exemple, c'est l'euro. Tous les États membres de l'Union européenne n'ont pas l'euro comme monnaie. Ils sont 19. Moi, je participe à deux conseils des ministres. Le conseil des ministres des finances, ça s'appelle le conseil Ecofin. C'est le mardi. On est 27. Et puis, le lundi, avant, il y a ce qu'on appelle l'Eurogroupe. C'est le conseil des ministres de la zone euro. Et c'est là où se prennent beaucoup de décisions. Par exemple, on parle de la Grèce. C'est là où on parle de la Grèce. C'est là où on traite sujets qui sont liés au programme grec. Deuxième exemple. Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, eh bien, tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas membres de Schengen. Je vais en citer un. Bah, vous êtes à la gare du Nord. Je vais souvent à la gare du Nord. Je vais souvent à Paris. Ma vie familiale est à Paris. Je prends mon Thalys. Je monte dans le Thalys. Bon, maintenant, il y a un portique, mais enfin, c'est quand même rapide. Je vais prendre l'Eurostar. Ça m'arrive de temps en temps. Là, je suis obligé d'arriver 45 minutes avant et j'ai un contrôle de douane exactement comme si je prenais un avion. Donc, cette Europe à plusieurs vitesses, ou à géométrie variable, elle existe déjà. On peut étendre ça à d'autres sujets. Je vais prendre un troisième exemple.
Alors, pour quelle raison, lors du dernier sommet de Versailles, quatre pays ont dit qu'il faut faire une Europe à plusieurs vitesses puisqu'elle existe déjà? Comment voulez-vous que les auditeurs, les Français comprennent ce discours qui aujourd'hui est de dire il faut une Europe à plusieurs vitesses alors que vous êtes en train de nous dire elle existe déjà?
Non, il faut peut-être s'expliquer. C'est-à-dire, c'est pour dire que moi je souhaite qu'on avance au maximum à 27. L'Europe doit être unie, mais elle peut être diverse. Et si, en certaines matières, on est empêché d'avancer parce qu'il y a des blocages de quelques-uns, il faut que les autres puissent le faire. Je vais prendre là encore un exemple. Il y a 10 États membres, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui sont en ce moment en train de travailler à une taxe sur les transactions financières pour financer le développement, pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. parce que les 18 autres ne l'ont pas voulu. Je souhaite qu'ils aboutissent. Et j'y travaille comme commissaire chargé de la fiscalité. Deuxième exemple, la défense européenne. Dans l'Europe, il y a des États qui sont membres de l'OTAN, il y a des États qui n'en sont pas membres, il y a des États qui ont une doctrine de défense, d'autres qui n'en ont pas, il y a des États qui ont une défense significative, et l'autre pas, il y a des États qui sont neutres, et d'autres qui sont des États engagés. Ben, à un moment donné, si on fait l'Europe de la défense, peut-être tout le monde ne sera pas à bord.
L'Europe de la défense sans les Britanniques, c'est impossible.
Et non, je pense que c'est important qu'elle ait lieu, parce que sinon, c'est la France. Et la France n'a pas vocation à porter seule le fardeau de la défense européenne.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, proprement dit, l'Europe de la défense, les Britanniques ne quitteront jamais, entre guillemets, l'Union européenne.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a aussi des industries de défense en Italie, en Allemagne. C'est que la Commission propose de créer un fonds de défense sur l'investissement, sur la recherche, sur les industries de défense. Et que ça, ce sont des choses qu'on peut partager. Il ne faut pas que le fardeau repose sur un seul. Il dit d'ailleurs que les profits aillent vers un seul. Et donc, je pense qu'il y a, voilà typiquement le genre de sujet où il peut y avoir des géométries variables, plusieurs vitesses. Il ne s'agit pas de dire on va larguer les uns. Il faut que le projet reste un projet unificateur, inclusif, comme on dit dans notre vocabulaire bruxellois. Mais il faut quand même être capable d'avancer, de ne pas se trouver paralysé quand certains décident de bloquer. La Pologne a bloqué les conclusions du Conseil européen la semaine dernière, la réunion des chefs d'État et de gouvernement, parce que 27 chefs d'État contre 1 avaient voté en faveur d'un candidat polonais démocrate contre le candidat du gouvernement polonais qui est peu démocrate. Eh ben non, on ne peut pas se laisser bloquer comme ça.
On retourne au standard 19h47 avec Bernard qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir Monsieur Moscovici, bonsoir à toute l'équipe de France Inter pour essayer d'ouvrir et de trouver des solutions. Monsieur Moscovici, est-ce que vous pourriez envisager un plan Marshall européen qui permettrait peut-être de réduire entre les pays du Nord et du Sud les problèmes d'endettement, de différences économiques, de migrants, etc.
Le plan Marshall, c'était un plan qui nous avait été non pas imposé, mais en quelque sorte offert par les États-Unis. C'était du nom d'un général qui s'appelait le général Marshall. Je pense qu'il y a deux dimensions dans la question, et je pense qu'il faut faire les deux en réalité. La première dimension, c'est un plan d'investissement pour l'Europe. Il existe déjà, c'est le plan Juncker dont j'ai parlé, 315 milliards d'euros sur 3 ans. On est déjà prêt à l'étendre sur 5 ans, jusqu'à 500 milliards d'euros, et je pense qu'il faut aller encore plus loin. Moi, j'estime que notre déficit d'investissement est de 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Il faut donc un effort très continu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, sans doute, une capacité à mettre en place des outils, non pas de mutualisation des dettes, mais de réduction des écarts.
Ça, les Allemands n'en veulent pas.
Et ça s'appelle...
C'est compliqué.
Ça s'appelle un budget de la zone euro. Mmh. Alors, nous avons une élection présidentielle...
Là aussi, c'est un peu une arlésienne, le budget de la zone euro, non, la mutualisation des dettes. Les Allemands n'en ont pas voulu, alors, donc ça va être très difficile de le faire.
Je vais vous dire, on a une élection présidentielle en France. C'est dans quelques semaines. On a une élection en Allemagne, c'est en septembre.
Et demain, une élection aux Pays-Bas, c'est tout aussi importante.
Et demain, une élection aux Pays-Bas qui est très importante. Et on va avoir un nouveau président français, ça on le sait. Et puis, soit Mme Merkel réélue, soit M. Schulz, chancelier. Et dans les deux cas, un chancelier qui sera très efficace et très pro-européen. Avec cette nouvelle donne, c'est le moment de faire un nouvel accord franco-allemand. Et pour moi, les ingrédients de ce nouvel accord, c'est une France sérieuse sur ses finances publiques, qui réduit ses déficits, parce que c'est un problème de crédibilité économique, parce que c'est un problème de crédibilité politique, parce que l'endettement est un appauvrissement. Une France qui poursuit les réformes, parce qu'elle a besoin de se réformer pour devenir plus dynamique. La France n'a pas la plus forte croissance de la zone euro, hein. Elle a 1,4, 1,5, là où la zone euro a 1,8. Et donc, on a encore besoin de se moderniser. Et la contrepartie, je pense, c'est que l'Allemagne doit accepter des formes de mutualisation européenne dans le cadre de la zone euro. Moi, c'est pas un rêve, c'est un espoir. J'espère qu'on aura un président européen, vraiment européen, sérieux, crédible, pro-européen, engagé. Je donne pas de nom, parce que plusieurs peuvent répondre à ce critère-là, j'espère. Et de l'autre côté, un chancelier allemand ou une chancelière allemande qui sera capable d'écouter. Il faut que les Allemands entendent que les autres Européens attendent d'eux aussi un effort de solidarité.
Concrètement, une mutualisation des dettes, ça permettrait quoi pour l'économie française, tout simplement?
Non, je parle pas de mutualisation des dettes. On peut avoir, je ne vais pas entrer dans la technique, des actifs communs stables qui s'incarnent en un budget européen.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment convaincre les Allemands d'y arriver?
Je crois qu'il faut vraiment que la France montre qu'elle est durablement un pays sérieux, un pays pro-européen. Les Allemands nous regardent tellement. Ils attendent tellement de nous. On doit aussi attendre d'eux. On doit être capable de leur passer des messages. Moi, comme commissaire, je le fais. Je leur dis, vous avez des excédents budgétaires, utilisez pour investir. Vous avez des excédents commerciaux énormes, utilisez pour investir davantage. Et soyez capable aussi de faire de l'investissement, non seulement au profit des Allemands, mais au profit des autres Européens. Parce que si on a des écarts trop grands entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, à la fin, on va finir par se poser des questions.
La France, pays vertueux, visiblement, les candidats à la présidentielle, il y aura un candidat qui serait élu, mais on n'a pas l'impression quand même d'avoir des candidats très vertueux quand on voit leur programme économique.
Il est encore temps, là, je les incite à prendre conscience que la France a pris des engagements, je dis bien la France, que la France a signé des traités, je dis bien la France, que plusieurs partis ont voté ces traités et qu'il faut les respecter. Et par ailleurs, il se trouve que la France est maintenant sur le point de les respecter. Enfin, nous allons être en dessous de 3% des déficits. Et quelle idée de vouloir repasser au-dessus. Je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que d'abord, ça voudrait dire qu'on repart dans une spirale d'endettement, ça voudrait dire qu'on reste le seul pays, le seul en Europe, dans une procédure qu'on appelle la procédure de déficit excessif. La France, pour moi, a vocation à être la première de la classe, pas la dernière.
On retourne au standard. Vincent, vous nous appelez de Bretagne. On vous écoute. Bonsoir, Vincent.
Bonjour. La course à la compétitivité entre pays européens, dans un cadre de concurrence anarchique, conduit au moins-disant social et au creusement des inégalités. Aussi, pour réconcilier les peuples avec l'Europe, ne serait-il pas nécessaire d'avoir avant tout un projet d'harmonisation fiscale et sociale ?
Merci Vincent. Ça, c'est une arlésienne aussi.
Non, il y a deux. L'harmonisation fiscale. Il y a deux questions là. La première, c'est la compétitivité. La compétitivité, ce n'est pas un gros mot. C'est une nécessité. On vit dans une économie mondialisée. On a 70% de nos échanges qui sont faits en Europe. Et si on n'est pas compétitif, on perd. Et la France a perdu. Elle a perdu des parts de marché dans l'industrie. Elle a un déficit du commerce extérieur de 50 milliards d'euros, là où l'Allemagne a 250 milliards d'euros d'excédent. Parce que notre industrie est trop faible. Parce que nous avons trop peu d'entreprises exportatrices. Parce que nous ne sommes pas suffisamment compétitif.
Parce qu'il y a aussi du dumping social avec certains pays européens par rapport à la France.
Mais pas avec l'Allemagne, par exemple. Si on compare, je comparais ce qui est comparable. Mm-hmm. Je comparais la France et l'Allemagne. Je ne vais pas comparer la France et la Roumanie ou la Bulgarie. Ça n'a pas de sens. Nous sommes plus compétitifs et nous sommes plus forts. Et ce sont des pays qui sont encore en rattrapage. Hein. Ils ont une croissance forte. Enfin, il faut voir d'où ça part. Ils n'ont pas le même niveau de vie que nous. Donc, la compétitivité, oui, il faut la poursuivre. Mais alors, l'harmonisation sociale et fiscale. Malheureusement, dans les traités, l'Europe n'a pas les moyens d'imposer une harmonisation fiscale.
Parce que ça reste de la compétence des États membres.
Parce que ça reste de la compétence des États membres. Mais si on devait prendre des décisions, il faut les prendre à l'unanimité, se mettre d'accord à 28 sur un grand projet social ou sur un grand projet fiscal. Mais des avancées fiscales et sociales sont possibles. Et là encore, je vais donner deux exemples. Premier exemple, en matière fiscale, je mène, au nom de la Commission européenne, une politique qui a permis de faire en sorte qu'on n'ait plus de secret bancaire en Europe. Qu'on lutte de manière efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. Que les multinationales payent leur part d'impôt là où elles créent des profits. C'était pas le cas avant. Regardez ce qui a été fait par ma collègue Margaret Vestager, qui a imposé à Apple une amende de 13 milliards d'euros parce que le système fiscal irlandais était jugé trop avantageux. Donc, on est en train de faire de très grands progrès, non pas dans l'harmonisation, mais dans la coordination, dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et je le dis, nous avons là une révolution de la transparence qui est en route. J'ai signé des accords d'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires avec la Suisse, Monaco, le Liechtenstein, San Marin, Andorre. Quand j'étais ministre des Finances, j'avais un ministre du budget délégué qui s'appelait Jérôme Cahuzac. Il avait un compte en Suisse. C'était impossible à tracer. Aujourd'hui, ça ne peut pas exister, ça. L'échange est automatique. Et deuxième exemple, l'harmonisation sociale. Alors, j'y reviens. La directive sur les travailleurs détachés, c'est un énorme sujet. Je sais que c'est un sujet qui est sensible dans la campagne électorale française. Et je le redis, il faut absolument passer outre à ce qu'on a appelé un carton jaune, convaincre qu'il faut changer vers ce principe à travail égal, salaire égal, avec des conditions sociales qui soient celles du pays de destination. Autrement dit, vous savez, il y a cette fameuse thèse du plombier polonais. Imaginez que vous avez un ouvrier polonais qui vient travailler dans un chantier naval à Saint-Nazaire, parce que c'est là où il y en a beaucoup, par exemple. Eh bien, il faut qu'il soit payé avec des conditions sociales qui ne soient pas les conditions polonaises, qui soient les conditions françaises.
Au standard, Jackie, vous nous appelez de Nîmes. Bonsoir.
Mais je déteste les comparaisons sur le plombier polonais, je donnais un exemple.
Jackie, vous nous appelez de Nîmes. Bonsoir.
Allô ?
Allô ? Oui, on vous écoute, Allô ? Jacquet. Vous êtes...
Oui, bonsoir. Oui, alors, rapidement, Michel Rocard a déclaré que le problème, c'était qu'on avait obligé la France et les pays européens à emprunter sur les marchés financiers privés. Et que le fait est que ça crée d'énormes problèmes. Donc, qu'attend-on pour mutualiser les dettes, ce qui permettrait de sécuriser l'Europe et les peuples européens ?
Merci, Jacky. Pierre Moscovici, mutualiser. On parle de la mutualisation des dettes. C'est quand même des sujets qui sont prégnants chez les auditeurs.
J'ai expliqué, mais je veux dire, il faut quand même comprendre une chose. C'est que ceux qui parlent de mutualisation de la dette, c'est ceux qui sont endettés, qui n'ont pas envie de rembourser leur dette. Il se trouve que l'Allemagne, toujours, a une dette publique qui représente 65% de son PIB aujourd'hui, que nous sommes à 97%. Donc, en fait, on est en train de dire mutualiser les dettes, on est en train de dire aux contribuables allemands, payez pour nous. Mettez-vous à la place d'un contribuable allemand. Il n'a pas envie. Donc, on doit être capable de mettre en place des outils de coordination budgétaire, c'est ce que j'appelle le budget de la zone euro. Et par ailleurs, il faut continuer à faire un effort pour se désendetter. C'est la raison pour laquelle je plaide pour le sérieux budgétaire, parce que quand vous avez moins de déficit, votre service de la dette diminue. Si vous avez plus de déficit, et si demain, par malheur, les taux d'intérêt réaugmentent, qui est-ce qui trinque ? Le contribuable français, le français, l'épargnant français, c'est lui qui sera appauvri.
Pierre Moscovici, je vais vous poser une question. Il y a des candidats, même en France, même à l'étranger, qui, et même des économistes de renom, qui plaident pour que l'Europe, pour une sortie de l'euro. Concrètement, on entend beaucoup de choses autour de ça. Sur le plan économique, ce serait vraiment une catastrophe. Des économistes américains très sérieux disent que ça ne serait pas une catastrophe.
Non, il y a des économistes américains comme Stiglitz, par exemple, qui Absolument. Disent, faites attention, si vous n'êtes pas capable d'avoir une plus forte convergence entre vos économies. Et je suis d'accord avec ça. À un moment donné, si le Nord progresse et le Sud est décroché, alors l'Europe, l'euro sera rejeté. Je dirais, j'ai utilisé une formule de Jacques Delors, l'euro c'est formidable parce que ça nous protège. Mais on a besoin que l'euro nous dynamise. Sortir de l'euro aujourd'hui, dans les conditions où nous sommes, de fait, ça veut dire plus d'inflation, des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire la ruine de nos épargnants, ça veut dire aussi que le patrimoine des Français les plus pauvres serait bouffé, grignoté. Quand Mme Le Pen propose ça, c'est un scandale pour l'Europe.
Et ça, ce sont des théories pour l'instant.
Non, c'est malheureusement une réalité économique tout à fait vérifiable. Enfin, par intuition, et ça les Français le savent, et je pense que c'est ce qui fera au final qu'ils ne feront pas confiance à Mme Le Pen. Le jour où on propose ça, le jour où elle est élue, les capitaux fuient la France. La confiance fuit la France. Nos partenaires nous rejettent. Il faut absolument éviter ça. Mais cela dit, ça ne nous dispense pas d'améliorer la zone euro. Moi, je ne suis pas pour en sortir. C'est très dangereux. Je ne suis pas non plus pour le statu quo. On a besoin d'une meilleure zone euro aussi.
Pierre Moscovici, merci d'avoir répondu tout au long de cette émission aux questions des auditeurs. Et puis, bon vent. Et on vous réinvitera peut-être après, effectivement, les élections présidentielles. Encore merci
à vous.
Pour cette émission. On arrive donc au terme de ce Téléphone Sonne Europe. Je remercie donc toute l'équipe technique ici à Strasbourg, Vincent Gendreau, Pascal Lustig, Jürgen Schmitt et Jean-Christophe Pécheur. Et à Paris, à la réalisation, Éric Lenné, assisté d'Amélie Stadelmann.